Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et également vous pouvez suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook, sur le compte Instagram Graphite qui vous permet voilà, de suivre l'actualité culturelle également donc, et notamment l'actualité scientifique dans cette émission. Une émission qui sera quand même un peu plus cool, on va dire, par rapport à cette émission extraordinaire la semaine dernière avec l'arrivée en direct donc, de l'équipage de qui est arrivé, j'ai y arrivé sur la Station Spatiale Internationale. Donc, on va pouvoir suivre, bien sûr, toute l'actualité scientifique d'une façon un petit peu plus pondérée aujourd'hui, 1er mai, fête du travail. Au niveau de l'éphéméride, pour cette actualité, pour le 1er mai, c'était l'inauguration de l'exposition universelle à Paris en 1878. À l'occasion de cette exposition universelle, il y a la construction du palais du Trocadéro. En 1899, c'est la Jamais Contente qui dépasse les 100 km à l'heure. La Jamais Contente, c'est une voiture électrique, et en 1899, elle dépasse les 100 km à l'heure. Vous rendez compte, à l'époque, déjà, on arrivait avec des voitures électriques à rouler quand même assez vite pour le 1er mai. Peut-être le 29 avril, selon certaines sources. En tout cas, il y a quand même à la fin du 19e siècle. Enfin, en 1998, des astronomes américains annoncent avoir découvert une petite galaxie à 12 milliards d'années-lumière de la Terre, donc c'était assez loin, mais qui constitue donc l'objet le plus lointain jamais observé par l'humanité. C'était en 1998. Naissance, le 1er mai 1852 de Santiago Ramón y Cajal, qui est un histologiste et neuroscientifique espagnol. Il y a eu un prix Nobel de médecine en 1906. Pour ses travaux sur la structure du système nerveux, il est considéré comme l'un des pères des neurosciences, Santiago Ramón y Cajal, qui est né donc en Espagne le 1er mai 1852. Décès d'Henri-Marie Ducrotet de Blainville, décédé le 1er mai 1850 à Paris. C'était un zoologiste et un anatomiste français. On doit à Blainville notamment la classification moderne de la classe des mammifères. Voilà un 1er mai quand même aussi assez important au niveau de l'éphéméride, bien sûr. 1er mai, aujourd'hui, 8 mai, je vous rappelle qu'on se retrouve samedi prochain en direct entre 10h et 13h. On sera avec Enrique pour la centième de son émission Vibra Suez. Nous serons en direct du magasin Primeland de Saint-Maximin et donc je ne peux que vous inciter à nous suivre samedi prochain à partir de 10h et donc l'émission Vibra Suez se poursuivra jusqu'à 13h et on aura donc l'actualité plutôt portugaise au niveau scientifique, on évoquera dans cette émission de la semaine prochaine. Donc suivez-nous bien sûr sur la bande FM, sur graphite.net et peut-être aussi avant tout sur le Facebook Live la semaine prochaine à partir de 10h bien sûr. Au niveau de l'actualité scientifique, bien sûr il y a tout ce qui se passe dans l'espace, il y a tout ce qui se passe au niveau de l'épidémie du coronavirus et il y a encore pas mal d'informations qui nous ramènent un petit peu loin dans le temps et notamment on a réussi à calculer approximativement le nombre de tyrannosaures qui ont foulé la Terre. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement une idée du nombre qu'il pouvait y avoir. Il y a eu des recherches qui ont été faites et des calculs notamment qui ont été faites en 2 millions d'années de règne sur la Terre, il y a déjà longtemps. Hein. On estime à peu près à 2 milliards et demi le nombre de tyrannosaures qui auraient arpenté la Terre selon les estimations d'une nouvelle étude. En fait, on considère qu'à l'instant T, on avait à peu près 20 000 tyrannosaures qui vivaient essentiellement aujourd'hui dans ce qu'on considère être l'Amérique du Nord. Et ça correspond donc à un total, durant l'existence de cette espèce, à un total de 2 milliards 500 millions d'individus. Quand même assez impressionnant. Et quelque part, c'est un chiffre qu'on n'a jamais évoqué. Donc c'était cette étude qui permet de le faire. Et précisément, le directeur du musée de paléontologie de l'Université de Californie s'appelle Charles Marshall. Il est justement responsable de cette étude. Il explique « Quand je tiens un fossile dans ma main, je ne peux m'empêcher de penser à l'improbabilité que cette créature était vivante il y a des millions d'années et que je suis là à tenir une partie de son squelette. » C'est ce qu'explique George Marshall. Et pour définir cette improbabilité, les chercheurs se sont donc lancés dans une série de calculs. Alors, d'abord, c'est un peu imprécis parce qu'il y a de nombreux facteurs qui sont incertains. Et donc, les résultats qu'ils nous donnent plutôt des ordres de grandeur. Alors, On estime donc, comme je vous le disais, probable que la population de T-Rex, hein, ces fameux tyrannosaures, s'élevait à peu près à 20 000 individus à l'instant T. Et on considère quand même des incertitudes assez larges, si bien que au niveau final, le 2 milliards 500 millions de tyrannosaures sur l'intégralité de leur présence sur Terre est une approximation, d'autant que la marge d'erreur est assez large, parce qu'on va à 100 millions jusqu'à 42 milliards. Donc vous voyez bien qu'ils ne savent pas trop, mais ils ont essayé de faire des calculs. Tout, en fait, dépend de ce nombre à l'instant T. C'est-à-dire que essayer de savoir combien il y a eu de tyrannosaures sur Terre, on prend l'instant T, on essaye d'estimer le nombre qu'il y a à l'instant T, et on élargit ensuite la période pour avoir une estimation du nombre. Donc 20 000 tyrannosaures, c'est un nombre qui est assez approximatif, dans le sens où on essaye de prendre en considération la superficie de leur déplacement, on prend en considération également la masse, le poids de ces T-Rex. 5 tonnes, oui, c'est quand même des gros pépères, mine de rien. Et puis l'espérance de vie également, pour savoir combien de temps ils restent sur Terre. Alors, c'est à peu près une durée de vie 30 ans, avec un seuil de maturité sexuelle autour de 15 ans à peu près. Et donc avec toutes ces données, eh bien, on considère donc qu'on arrive à peu près 2,5 milliards d'individus au total. Un chiffre assez important, bien sûr. Alors, considère le chercheur que ces chiffres seront un premier pas pour dénombrer les espèces manquantes dans les archives fossiles, malgré la marge d'erreur, bien sûr, que contiennent ces résultats. C'est peut-être une façon de commencer à quantifier ce que nous ne savons pas encore pour l'instant. C'est, à ma connaissance, l'un des premiers résultats, ou en tout cas, on essaye d'avoir une estimation du nombre de tyrannosaures qui ont foulé la Terre. Donc voilà, 2,5 milliards, c'est un chiffre pour l'instant officiel qui reste à être confirmé, bien évidemment. Mais c'est un chiffre que vous pouvez, comme ça, allègrement placer dans une conversation, bien évidemment. Mais les calculs sont approximatifs et méritent, bien sûr, d'être confirmés. À voir, bien sûr, on suivra ça dans la suite de cette émission. Allez, on va aussi écouter un peu de musique, c'est ça également, Biotine, se informer de l'actualité scientifique et puis écouter un petit peu Ludopine sur l'antenne.
Si je respire toutes les trois secondes, si je respire toutes les trois secondes, si je respire toutes les trois secondes, si je respire toutes les trois secondes. Si je respire toutes les trois secondes, c'est pour pas grand chose. Si t'oublies mon âme, si t'oublies mon âme, c'est pour pas grand chose. Si je supporte plus les grandes proses et que j'oublie ta rose, pour si peu de choses, si t'oublies mon âme, pour si peu de choses. Si je respire toutes les trois secondes, si je respire toutes les trois secondes, si je respire toutes les trois secondes, mais si je respire toutes les trois secondes, c'est peut-être pour apprécier l'hyperventilation de tes soupçons, c'est peut-être pour te laisser faire, te laisser me satisfaire encore. Si je respire une dernière fois, simplement, c'est que j'ai pas envie de me laisser crever. Là, je préfère mille fois le creux de tes bras, le creux de tes bras. Si je respire toutes les trois secondes, c'est pour pas grand chose. Si t'oublies mon âme, si t'oublies mon âme, c'est pour pas grand chose. Le creux de tes bras. Si je supporte plus les grandes roses et que j'oublie ta rose. À bout de souffle, c'est plus facile à expliquer. Si je m'engouffre et que j'ai peine à expirer, l'habitude de l'altitude me font perdre la tête. Me font perdre la tête. L'habitude, l'altitude. Me font perdre la tête. Si je supporte plus les grandes roses, et t'oublies ta rose pour si peu de choses. Si t'oublies mon âme. L'habitude, l'altitude pour si peu de choses. Me font perdre la tête. Si je respire toutes les trois secondes, si je respire, si je respire, si je respire toutes les trois secondes, si je respire toutes les trois secondes.
Ludopine avec 3 secondes sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. On va parler de la pollution sonore avec un article assez intéressant qui étudie l'influence, l'impact plutôt négatif de la pollution sonore sur les arbres. La pollution sonore qui est liée aux activités humaines a largement augmenté depuis le début du XXe siècle. On le sait, une situation qui a poussé les biologistes à se pencher sur son impact sur la faune et la flore. Et donc, il y a des études qui avaient déjà examiné les effets du à court terme du bruit sur les arbres. Et notamment, l'un des effets qu'on avait remarqué, c'est que le bruit chassait les insectes pollinisateurs. Mais il y a peu de chercheurs qui ont enquêté sur les impacts à long terme. Eh bien, il y a des scientifiques américains qui ont étudié des arbres qui étaient exposés pendant 15 ans à un niveau élevé de bruit artificiel au niveau Mexique. Et les résultats de cette étude ont été publié il y a quelques jours dans la revue Proceedings of the Royal Society, et ils ont découvert, ces chercheurs, une réduction de 75% de jeunes pousses de pins à pignons dans les zones bruyantes par rapport aux zones qui sont plus calmes. C'est quand même assez fascinant, c'est-à-dire que dans des zones où il y a du bruit assez conséquent, on va dire, il y a une réduction de 3/4 des jeunes pousses de pins. C'est quand même assez étonnant. Ils ont ensuite examiné les zones où la pollution sonore avait disparu pour voir quelle était la réaction des arbres, partant de l'hypothèse que ces arbres allaient se remettre rapidement. Et avec l'idée que, notamment, les jets pouvaient disperser les graines et pouvaient revenir justement sur cette parcelle qui était un petit peu plus silencieuse. Mais ils ont observé un déclin à long terme du nombre de ces nouvelles pousses parce que les oiseaux refusaient de revenir sur ces sites. Les effets de la pollution sonore provoquée par l'homme s'infiltrent dans la structure de ces communautés forestières. C'est ce qu'explique justement les résultats de cette étude. Ce que nous constatons, c'est que faire disparaître le bruit ne signifie pas nécessairement une reprise des fonctions écologiques. C'est l'article qui évoque cela, tout simplement parce que les animaux pollinisateurs peuvent rester à l'écart même si le bruit cesse. Des animaux comme le jet buissonnier sont sensibles au bruit et apprennent à éviter en fait certaines zones, si bien qu'en fait ils ne vont pas revenir même si le bruit a disparu. C'est ce qu'explique justement l'auteur de cette étude. Cela peut prendre du temps aux animaux pour redécouvrir ces zones qui étaient précédemment trop bruyantes, mais nous ne savons pas combien de temps. Alors, tout ça plaide pour que les nuisances sonores soient prises en compte dans l'évaluation des impacts de l'urbanisation sur la nature. Le responsable de cette étude explique « Je pense vraiment que la pollution sonore et d'autres polluants sensoriels comme la lumière ne sont pas suffisamment pris en compte. » Et donc, effectivement, il y a cette fois une étude sur le long terme qui explique bien que les arbres souffrent de la pollution sonore et, quand on extrapole, bien sûr, c'est au niveau de la biodiversité où cela a un impact plus que négatif, bien sûr. Autre article, et là, cette fois, on s'intéresse aux fourmis. On sait très bien que chez les fourmis, le rôle de chacune, les rôles sont clairement répartis. Il y a une reine qui pond les œufs, il y a les ouvrières qui font le reste, hein, chercher à manger, nourrir les petits, faire la guerre. Toutes les fourmis femelles sont stériles, sauf la reine, bien sûr. Et quand celle-ci meurt, eh bien, la colonie disparaît généralement avec elle. Pendant des années, les chercheurs de l'Université d'État de Kansas aux États-Unis ont observé les fourmis sauteuses indiennes, donc une catégorie de fourmis assez particulière qu'on appelle les Erpinganos saltator, hein, pour l'idée qu'elles sont sauteuses, parce qu'elles s'organisent un peu différemment, c'est-à-dire que lorsque la reine meurt, eh bien, les autres fourmis organisent de drôles de compétitions. Elles se piquent les unes des autres et avec leurs antennes de façon assez rapide et ça peut durer pendant 40 jours. L'objectif, c'est de fixer les rapports de force entre les fourmis. Et la fourmi qui en sort vainqueur prend la place qui est laissée vacante sur le trône, façon de perpétuer un petit peu la colonie. Et donc, pour pouvoir pondre, l'ouvrière qui devient reine voit ses ovaires se dilater et son cerveau, quant à lui, va rétrécir jusqu'à 25%. Elle arrête de produire du venin, elle change de comportement, elle se cache des intrus et elle arrête de chasser. Et c'est encore plus étonnant, les chercheurs de l'université justement de l'état de Kenso nous apprennent aujourd'hui que ces fourmis sauteuses indiennes peuvent ensuite remettre en cause l'autorité de leur reine. Ils l'ont remarqué en isolant certaines de ces fourmis un peu nouvelles reines, puis en les réintroduisant dans leur colonie. Et pendant l'isolement, eh bien, leur fertilité semble avoir diminué. Et quand elles retournent chez elles, elles ont été immédiatement mises aux arrêts par des fourmis ouvrières. C'est quand même assez fascinant. C'est une façon, selon les chercheurs, d'éviter que la colonie se retrouve à devoir composer avec plusieurs fourmis reproductrices. Le stress de cette mise à l'écart provoquerait chez la fourmi une cascade de changements chimiques destinés à refaire d'elle une ouvrière en seulement un ou deux jours. Donc ses ovaires vont rétrécir et son cerveau, à ce moment-là, va repousser. Et elle va recommencer à produire du venin. Donc il y a une espèce de plasticité du cerveau réversible que les chercheurs qualifient d'assez unique. Et effectivement, ces fourmis, elles sont capables de pouvoir faire rétrécir ou de pouvoir faire repousser leur cerveau, je dirais, selon la situation où elles se trouvent. Si ce type de plasticité avait déjà observé chez des oiseaux, par exemple, qui gagnent ou qui perdent plusieurs dizaines de milliers de neurones en fonction des saisons, eh bien, il n'a jamais été observé chez des insectes. Il y a des changements lors de transition entre des phases de vie qui existent, mais jamais de retour en arrière. Sauf que là, l'expérience montre bien que celle qui est devenue reine, quelque part, est redevenue ouvrière ensuite quand elle était isolée, avec des changements morphologiques assez fascinants. Et cela pourrait aider les chercheurs à mieux comprendre le développement du cerveau humain. D'où l'idée, voilà, de pouvoir essayer toujours d'en apprendre un peu plus. Ça aussi, c'est souvent dans cette émission que je l'évoque. Le cerveau est vraiment là aussi des domaines de recherche assez importants qu'il va falloir essayer d'expérimenter et d'exploiter, parce qu'il nous manque encore pas mal d'informations sur le cerveau. Et du coup, essayer de comprendre comment ça fonctionne chez ce genre de fourmis peut peut-être donner quelques indices ensuite, quelques pistes de recherche, bien évidemment. Voilà, des fourmis qui rétrécissent ou qui font repousser leur cerveau, c'est quand même assez extraordinaire. Allez, un peu de musique et on continue à se retrouver juste après.
Always on your mind, always. It's hard to get you in a shelter.
Drew avec Always On Your Mind sur l'antenne de Graphite. On évoquait la semaine dernière Elon Musk avec son entreprise SpaceX qui a donc eu un rôle assez important avec l'arrimage donc de la capsule Dragon au niveau de la Station Spatiale Internationale. Elon Musk, on en avait parlé également dans cette émission, notamment en mars 2019, donc il y a un peu plus de 2 ans, avec une entreprise qu'il avait fondée qui s'appelait The Boring Company. L'idée, c'était de creuser des tunnels destinés à décongestionner les grands centres-villes. Et il annonçait donc un premier projet commercial, notamment à Las Vegas. Il s'agissait d'un tunnel comportant 7 arrêts pour desservir le palais des congrès de la ville avec une capacité de 11 000 passagers à l'heure. Et donc l'entreprise The Boring Company vient de convier la presse il y a quelques jours à découvrir la version finale qui s'avère finalement bien moins enthousiasmante et futuriste que la promesse initiale. Les journalistes qui ont pu essayer le système de transport en sont ressortis plutôt déçus quand on lit la presse, déçus par la lenteur et par la banalité de l'expérience, nous dit-on. Alors, rappelons que le projet initial, c'était de transporter des voitures sur des plateaux électriques glissant à 250 km/h. Et puis, il fut ensuite question de navettes électriques qui étaient capables de transporter entre 8 et 16 personnes. Et bien, au final, l'entreprise a fini par se rabattre sur une solution plus basique pour débuter, à savoir faire tout simplement rouler une flotte de voitures Tesla dans ce tunnel avec des roulettes de guidage qui se déploient de chaque côté des roues avant. Le tronçon qui entrera en service à Las Vegas en juin prochain mesure presque 3 km et comprend 3 arrêts. Une flotte de 62 véhicules Tesla qui sont conduits par des chauffeurs vont évoluer à peu près à 56 km/h dans ce tunnel qui est éclairé comme une boîte de nuit, nous dit-on. Les clients pourront réserver un trajet via une application mobile et donc selon l'entreprise, le service permet de traverser ce fameux palais des congrès de la ville en 2 minutes au lieu de 45 minutes à pied. L'entreprise annonce pouvoir transporter 4400 passagers à l'heure, mais la réglementation en matière d'incendie devrait limiter le flux en fait à environ 1000 personnes à l'heure, ce qui est nettement moins qu'une ligne de bus classique. Alors, beaucoup de bruit pour rien au final, nous dit-on. En tout cas, c'est ce qu'on se demande. Bon, il serait un petit peu prématuré, en tout cas, de porter un jugement définitif dès à présent, alors que le service n'est pas encore opérationnel et qu'il est susceptible d'être amélioré au fil du temps. Mais l'usage devrait démontrer assez rapidement si l'idée, justement, d'Elon Musk était pertinente ou non. Donc, on suivra ça. Mais voilà, une première déception de cette expérience avec ce tunnel qui permettait justement de pouvoir traverser des villes de façon beaucoup plus intéressante. On n'est pas aussi satisfait que ça, on verra, on suivra bien sûr ça, notamment au mois de juin quand il y aura l'inauguration un petit peu plus officielle bien sûr. Autre information, je reviens sur ce que j'évoquais en début de cette émission où on estimait à peu près le nombre de tyrannosaures de 2 milliards 500 millions. Et en fait, on sait un petit peu plus aussi pourquoi ça a disparu et surtout, on a une idée sur ce qui a été mis en place par la suite. Alors, il y a 66 millions d'années au Crétacé, les forêts tropicales d'Amérique du Sud étaient constituées de conifères et d'arbres à graines. Et les plantes à fleurs, qu'on appelle des angiospermes, représentent environ 80% de notre flore moderne. Eh bien, elles étaient rares, ces plantes à fleurs, à l'époque. Et en fait, l'astéroïde tueur est arrivé et il a dévasté la moitié de toutes les espèces végétales terrestres. Et de ces cendres ont émergé des nouvelles plantes qui ont sans doute favorisé l'émergence, justement, de ces foisonnantes forêts tropicales modernes. C'est ce que suggère une nouvelle étude parue dans la revue Science. Bref, cet astéroïde a tué les dinosaures et a donc peut-être fait naître la forêt amazonienne. Ce sont des chercheurs d'un institut de recherche du Panama qui ont analysé plus de 6 000 fossiles de feuilles, plus de 50 000 fossiles de pollen de Colombie pour essayer de reconstituer la flore de cette région entre 72 et 58 millions d'années, ça veut dire avant et après l'impact de cet astéroïde. Et ils se sont notamment basés sur différentes méthodes pour essayer justement d'avoir une indication sur la biodiversité de la forêt. Tous ces indices nous ont raconté la même histoire, c'est ce qu'explique Carlos Ramamillo, qui est le responsable de cette étude. À l'époque des dinosaures, eh bien, il y avait essentiellement une domination des conifères et des plantes à graines. Et les membres qui sont plutôt liés avec des pins étaient les plus communs à l'époque. Et 6 millions d'années après la destruction de cette forêt par l'astéroïde, eh bien, on s'est rendu compte que tous ces fameux conifères et ces plantes à graines avaient quasiment disparu. Et ont été remplacés par des plantes à fleurs qui représentent aujourd'hui près de 90% de la diversité végétale en Colombie aujourd'hui. Alors question, pourquoi les plantes, elles n'ont pas repoussé à l'identique ? On ne sait pas grand-chose, mais les chercheurs avancent trois hypothèses dans cette revue, dans cet article, pardon, dans la revue Science. Il y a trois hypothèses. La première, c'est la disparition des dinosaures qui dévoraient la végétation et qui piétinaient un petit peu les broussailles. Ce qui a permis ensuite, quand ils ont disparu, au feuillage de pouvoir s'épanouir entre les arbres. Et donc, ça a pu permettre l'éclosion de ces fameux plantes à fleurs. Deuxième hypothèse, ce sont les conifères qui tiraient leur avantage de leur grande taille. Ils n'avaient pas de représentants un petit peu en dessous d'eux. C'est-à-dire qu'ils se sont un petit peu rendus plus vulnérables lorsqu'il a fallu remplir un petit peu ces nouvelles niches écologiques. Donc, ils ont laissé beaucoup de place aux autres et les autres ont pris la place et les ont un petit peu dégagés, entre guillemets. Troisième hypothèse, ce sont les tsunamis qui sont survenus après l'impact. Les feux de forêt également qui ont apporté des sédiments riches en carbone et en débris, et tout ça a fertilisé le sol, ce qui a permis à ces plantes à fleurs d'avoir un avantage concurrentiel parce qu'elles ont tendance à croître plus rapidement quand il y a un sol qui est riche en nutriments. Ces trois hypothèses sont avancées, elles ne s'excluent pas mutuellement, elles peuvent être complémentaires, mais voilà, ça donne peut-être une idée, et en tout cas on s'est rendu compte que la forêt avant et après l'impact de cet astéroïde était totalement différente. Selon les chercheurs, cette étude donne également un aperçu de ce qui pourrait advenir de la forêt tropicale à l'heure de ce changement climatique que l'on évoque en ce moment. Environ 10 millions d'années après la fin du Crétacé, la Terre avait été inondée de dioxyde de carbone et le monde avait connu un réchauffement de 5 degrés. Eh bien, c'est un scénario qui est susceptible de se reproduire avec les quantités de dioxyde de carbone que l'on rejette actuellement par nos activités humaines. Quel est le problème, puisque la flore s'est générée de façon favorable après la catastrophe? C'est ce qu'explique Peter Wilf, qui est justement le responsable de cette étude. Oui, effectivement, si ça a poursuivi après, pas trop se poser de questions, sauf qu'il explique, en tout cas il ajoute, et il a raison, qu'il a fallu quand même 6 millions d'années à la végétation pour repartir. Pouvons-nous nous permettre d'attendre aussi longtemps? 6 millions, je ne pense pas, évidemment. Et donc voilà, on en sait un petit peu plus sur comment cet astéroïde qui a tué les dinosaures a permis de faire naître cette forêt amazonienne, entre autres, et notamment l'éclosion de ces nouvelles plantes à fleurs qui ont pris la place sur la planète Terre. C'est quelque chose aussi que, à ma connaissance, nous n'avions jamais précisément évoqué dans cette émission. Allez, on écoute Gangstagrass sur l'antenne de Graphite et puis on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite. Like marshmallows on the shark in the shallowest part of the water where you thought it was safe, but there ain't no escape.
the firebender that's creating a blaze from the pages of the journal and making an inferno. You're a sterno in comparison, I spit molten metal. My train seems punk rappers over the trestle. Try to wrestle with this only in your dreams, giving sunburns and fevers out, raising your degrees. Keeping it 449, it won't turn it up, otherwise the whole damn book will get burned up.
Let me give you all the rundown. It ain't never been a cause for me to turn down. So get ready when you hear we about to come round. Now, feel the rhythm in your backbone. You ain't shaking what you're coming in the shack fold. Act mode like you wanna party when the track on. I'ma give it to you full throttle in attack mode. Satch mode when I'm on this thing. Spit flame, let her burn the whole Dak Gurn stage. When I wrote him in it, burn through the Dak Gurn pain. I ain't playing, man, you act like it's a Dak Gurn game. Campaign, now we move with our hands up. Seems like the whole world is against us. Seek the truth, that's a rule that you can't trust. Seeing how we do, move smooth like a panther.
Gangsta Grass avec Barn Burning sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Alors, on va avoir trois petites informations assez rapides qui n'ont aucun lien entre elles. Mais c'est ça aussi, la revue de presse d'actualité scientifique. On a beaucoup parlé d'espace la semaine dernière. On va en parler avec cette fois Blue Origin. L'idée de pouvoir envoyer des passagers à la frontière de l'espace. Eh bien, Blue Origin a réalisé avec succès un nouveau lancement de son New Shepard. Donc, c'est un dernier essai à vide de sa capsule. Le vol du décollage à l'atterrissage a duré un peu plus de 10 minutes. La capsule a atteint une vitesse de pointe de près de 3600 km/h et a atteint l'altitude de 107 km avant d'entamer ce retour sur la Terre ferme. Et donc, à la suite de ce succès, Blue Origin peut se préparer sereinement au premier vol habité de sa capsule. Alors, le prochain vol est prévu dans plusieurs semaines, voire quelques mois, et embarquera un équipage dont la composition n'a pas été encore relevée, tout comme la date de lancement. Hein, mais on suppose que pour ce premier vol commercial, il y aura un ou deux professionnels qui seront du voyage. Et donc, c'est l'idée, voilà, de vols suborbitaux qui va pouvoir être mis en place. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir des touristes de l'espace. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez candidater au niveau de Blue Origin. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se précise bien. C'était un projet qu'on avait suivi dans cette émission assez régulièrement. Et donc là, on arrive presque à l'étape ultime des essais avant d'avoir une concrétisation dans les toutes prochaines semaines ou prochains mois. On n'a pas encore une idée précise. Mais en tout cas, apparemment, ça sera dans le courant de l'année. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Autre chose, pourquoi le FBI s'est-il chargé de nettoyer les serveurs de Microsoft ? C'est pour la première fois le FBI qui s'est en effet occupé de nettoyer des serveurs qui étaient infectés par un genre de virus, un malware. L'organisation a reçu le feu vert d'un tribunal à Houston, au Texas, pour supprimer un code malveillant sur des centaines de serveurs Microsoft Exchange qui étaient situés aux États-Unis. Alors le malware en question a été implanté à la suite de la découverte de 4 failles dans le logiciel de Microsoft. Le groupe de hackers chinois Hafnium a été le premier à les exploiter, mais il y en a d'autres qui ont rapidement suivi. Tu m'étonnes, Microsoft avait déployé une mise à jour pour corriger les failles, mais les hackers ont pu garder la main sur certains serveurs grâce justement ce malware qui avait été introduit entre-temps. Et il y a donc de nombreux administrateurs qui ont pu désinfecter avec succès leur système après avoir installé un patch correcteur. En tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Et les hackers ont pu ainsi continuer à essayer d'accéder à certains autres serveurs. Et donc, le FBI s'est attaqué justement à un programme qui permet de commander l'appareil affecté depuis un navigateur. Et donc, l'organisation s'est ainsi connectée à des centaines de serveurs pour envoyer une commande leur indiquant de supprimer justement les fichiers de ce programme un peu viral. S'il s'agit d'une grande première pour le FBI qui met donc son nez pour nettoyer les serveurs de Microsoft, eh bien la cybergendarmerie française avait déjà mis fin à un cas similaire en 2019. La tâche avait été toutefois simplifiée par la présence d'un serveur centralisé qui a pu être utilisé pour désactiver justement ce fameux malware sur l'ensemble des appareils qui avaient été infectés. Alors, l'opération actuelle s'est concentrée sur un seul cas, mais n'a pas supprimé d'autres programmes malveillants potentiels. Donc, le FBI tente de contacter les propriétaires des serveurs en question pour essayer de les notifier de l'intervention. Mais voilà, c'est maintenant la cybercriminalité et la cybergendarmerie qui va être un petit peu l'avenir que nous suivrons dans cette émission. Enfin, dernière chose, c'est bientôt l'été et c'est bientôt les piscines que l'on va pouvoir utiliser. Et notamment pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine chez eux. C'est génial, sauf qu'il faut quand même être obligé de traiter l'eau pour pouvoir éliminer les bactéries, les algues notamment. Et on utilise du chlore, un chlore chimique qui est largement utilisé, mais quand il est mal dosé, il occasionne de nombreuses gênes, les yeux qui piquent, la démangeaison, la peau un peu sèche. Et en plus, le traitement de l'eau de la piscine au chlore chimique est de plus en plus pointé du doigt. On cause bien sûr la pollution des sols, des cours d'eau, le danger pour la faune quand il est encore présent lors du vidage du bassin. Il faut donc trouver des traitements alternatifs. Eh bien, il y a eu une réunion, une association de 2 entreprises françaises qui ont associé leur savoir-faire. Alors, le premier, Bio-UV, il a développé un réacteur UV spécifique, justement. Et le second, Pool Technology, a développé un électrolyseur qui fonctionne avec une quantité limitée de sel. Et donc, le résultat de ces deux, eh bien, c'est de mettre en place un traitement de l'eau de piscine 100% naturel, où l'eau est à la fois désinfectée et désinfectante. Et donc, ce dispositif qui est distribué par les deux marques est donc un système de traitement d'eau qui fonctionne automatiquement et qui se veut simple d'utilisation. Alors, OK, ça fonctionne sur quoi ? L'efficacité de ce dispositif, il est donc dû à 2 particularités. L'électrolyse d'un premier, quand ça fonctionne en circuit fermé, eh bien ça permet justement de transformer une quantité de sel qui n'est pas nécessairement importante en chlore et en soude. Et donc, avec une très bonne rémanence, en agissant avec les UV, eh bien, le chlore et la soude vont se transformer à nouveau en sel. Donc, en une espèce de cycle qui se met en place comme ça. Et donc, ça permet justement d'avoir une eau de piscine qui est naturellement désinfectante. L'inconvénient, comme on parle de sel, ça donne un goût un peu salé à l'eau, ce qui n'est pas très agréable. Et puis, il y a également un taux de pH qui fluctue un petit peu. Donc, c'est tantôt acide, tantôt basique, et ainsi de suite. Donc, l'efficacité n'est pas totalement optimale. L'autre dispositif, c'est le traitement UV. Et donc, on va pouvoir détruire les micro-organismes qui sont présents dans l'eau, les bactéries, les moisissures, les algues, en agissant avec un traitement par ultraviolet. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de variation de pH. Par contre, eh bien, ce traitement seul, quand, si on n'utilise que les UV, oblige quand même à utiliser, même en faible quantité, du chlore, du brome, pour que l'eau soit également désinfectante. Donc on essaye de combiner un peu les deux, justement les deux dispositifs, pour avoir une piscine assez, assez bien dans son principe de traitement de l'eau. Bien, mais cher, hein, parce que pour l'instant, c'est un budget assez élevé. Il faut compter pas loin de 3 000, voire 3 800 euros selon les modèles, mais qui se rentabilise, nous dit-on, grâce à un entretien de l'installation limitée et à l'absence de produits supplémentaires. Voilà, donc est-ce que c'est un dispositif qui vaut le coup? Pourquoi pas, d'un point de vue écologique, effectivement. Mais voilà, c'est aussi un coût qu'il va falloir engager. Mais en tout cas, si vous souhaitez vous équiper de ce dispositif pour votre piscine personnelle, eh bien, vous renseignez auprès donc de l'entreprise Auclair. Et c'est en France que ça se passe. Voilà, on continue à écouter un peu de musique et puis on se retrouve tout à l'heure, juste après, pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique. À tout de suite.
Je t'aime. Je t'aime. C'est difficile de mentir. C'est difficile de marcher sur un fil. C'est difficile de marcher. De vide entre deux vies.
C'est difficile.
Maman, souvent je pense à toi.
C'est difficile.
Je fais quelque chose sans toi.
C'est difficile.
C'est difficile. J'ai fait quelque chose sans ton accord.
C'est difficile. C'est difficile.
Je suis parti sans te dire au revoir. Maman, tu me manques énormément. Maman, tu me manques énormément.
C'est difficile. C'est difficile.
Ça fait 3 ans maintenant. Maman, souvent je pense à toi.
C'est difficile,
maman, c'est difficile.
C'est difficile,
maman, c'est difficile. J'espère bientôt on se verra. Ainsi que les petits frères.
C'est difficile,
maman, c'est difficile. Middle Hidoma, Bimbi, Ekikil, Middle, Middle Mijo, Fimala, Nuawata, Wonde, Sangmala, Middle Woni, Bindema, Middle Woti, Konosakfa, Halamido Bindema, Nene. Mido Hidoma, je t'aime. Je t'aime. Nene, Mido Hidoma, je t'aime. Pour toujours. Je t'abandonnerai jamais. Un jour, maman, je reviendrai. Je reviendrai à tes lumières.
C'est difficile. C'est difficile.
C'est difficile. On est là à cause de, sous l'ombre de Emmaüs. C'est difficile.
C'est difficile. C'est difficile.
Tout le monde, beaucoup d'ethnies, de tant de pays. C'est difficile. C'est difficile. On est fier d'être des Français, des Guinéens, des Soudanais, des Afghans, des Sénégalais. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile.
C'est difficile. C'est difficile.
C'est difficile.
C'est difficile. C'est difficile, il y a tous sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Je voulais parler de cet article qui annonce que des médecins américains testent un vaccin personnalisé contre le cancer à la clinique du Mont Sinai à New York. Un groupe de scientifiques travaille sur une nouvelle approche dans le traitement du cancer. C'est un vaccin personnalisé et propre à chaque malade. Alors, comme dans l'immunothérapie dirigée contre les cancers, bien le principe, c'est de stimuler un petit peu les effecteurs de l'immunité pour qu'ils reconnaissent la tumeur et pour qu'ils puissent la détruire. Et donc, le problème, c'est que les bénéfices de ces traitements sont très variables. Ça peut être très efficace chez certains, ça reste sans effet pour d'autres. Et donc, pour contourner ce problème, les médecins de la clinique donc, du Mont Sinai étudient la possibilité de concevoir un vaccin à partir de peptides. Des peptides, ce sont des petites protéines qui sont contenues dans la tumeur d'un patient. Et donc, ils planchent sur la question depuis 3 ans et ils ont mis au point un protocole d'identification et de purification de ces fameux peptides qui viennent de ces tumeurs cancéreuses. Depuis, il y a un essai clinique de phase 1 qui a été lancé et les résultats ont été présentés lors de la conférence annuelle de l'Association américaine de recherche sur le cancer. Cette conférence a eu lieu le 15 avril dernier, donc c'est tout à fait récent. Et les vaccins personnalisés qui ont été testés auprès de 13 personnes atteintes de cancers différents semblent être bien tolérés et ont démontré une efficacité prometteuse. Donc pour identifier les peptides les plus à même d'induire une réponse immunitaire qui soit à la fois robuste et efficace contre la tumeur, eh bien les scientifiques ont mis en place un protocole spécifique. La première étape consiste à regrouper une collection d'échantillons de la tumeur, ce qui signifie que le malade doit être en état pour pouvoir subir des interventions médicales, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, on a isolé de l'ADN, puis on a pu le séquencer, si bien qu'on a pu identifier avec ces données une quinzaine de peptides qui semblent les plus intéressants pour pouvoir les sélectionner par informatique. Et ils sont choisis en fonction de leur abondance dans la tumeur, mais aussi par rapport à leur affinité avec une molécule nécessaire à leur prise en charge par les lymphocytes de notre système immunitaire. Et donc ces candidats sélectionnés ont été créés en laboratoire et puis on les a mélangés à un adjuvant. Et donc c'est un peu un vaccin ARN quelque part, ça nous permet d'évoquer quelque chose d'autre d'actualité également, qui permettrait d'activer plusieurs récepteurs de l'immunité, faisant donc de ce dispositif un composé assez optimal pour induire une réponse immunitaire contre les antigènes des tumeurs. C'est ce qu'explique Nina Bardvaj, qui est la chef du programme d'immunothérapie dans cette clinique du Mont Sinai et qui est donc responsable de cet essai clinique. Le vaccin personnalisé est alors prêt à être injecté et donc les participants à l'essai clinique, 13 en tout, étaient atteints d'un carcinome touchant différents organes ou d'un myélome multiple avec un risque important de rechute. Et après avoir reçu les traitements usuels pour leur cancer, comme la chirurgie par exemple, eh bien les participants ont reçu 10 doses de leur vaccin personnalisé durant 6 mois. Et après un suivi moyen de plus de 800 jours, ce qui est donc à peu près 2 ans et demi, les résultats apparaissent encourageants. L'objectif principal de cet essai a été rempli, c'est-à-dire s'assurer que le vaccin soit bien toléré par les malades, ce qui semble être le cas. Un tiers des participants ont éprouvé des symptômes plutôt mineurs au niveau du site d'injection, les autres ça va. Et concernant l'efficacité, eh bien, les résultats sont encore trop précoces pour pouvoir déterminer cette efficacité, mais 4 participants sur les 13 n'ont pas fait de rechute. 4 autres patients sont décédés, un autre n'a pas voulu poursuivre le protocole. Les médecins ont pu observer la présence d'une réaction immunitaire propre au vaccin pour un des patients. Dans 2 autres cas, la vaccination a permis d'améliorer l'efficacité d'un autre protocole d'immunothérapie qui avait été mis en place. Et les scientifiques prévoient de mener 5 autres essais cliniques de phase 1 avec des personnes atteintes d'autres cancers, notamment le cancer de la vessie ou le cancer de la prostate, pour pouvoir poursuivre ces essais de phase 1. Mais voilà, on teste un vaccin personnalisé contre le cancer. Il est encore trop tôt pour avoir des résultats, mais pour l'instant, ce vaccin est supporté ce qui est déjà aussi un élément assez important, il serait pour l'instant supporté. Vous avez bien compris qu'on était sur un panel assez restreint de 13 personnes pour ce test. Il va falloir bien sûr compléter cette phase expérimentale, mais en tout cas, c'est une piste assez intéressante, justement, que l'on pourra suivre dans une émission ultérieure. Allez, dernier titre avant de nous dire au revoir dans cette émission sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. C'était Whispering Suns avec Dance sur l'antenne de Graphite. Vous écoutiez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer un bon 1er mai. On se retrouve samedi prochain en direct pour une émission spéciale. C'est la 100e de Vibrosos avec Enrique. Nous serons en direct du magasin Primeland de Saint-Maximin dans l'Oise à partir de 10h en direct sur l'antenne de Graphite. Vous pourrez nous suivre sur la bande FM, sur graphite.net et peut-être aussi avant tout si vous avez la possibilité sur le compte Facebook de Graphite pour suivre le Facebook Live de cette émission à l'occasion de la 100e de Vibrosos avec Enrique pendant 3h. Voilà, de la musique et une très bonne humeur qui va nous accompagner. On en aura besoin pour ce 8 mai. Et donc, à l'occasion de cette émission, nous ferons une émission Biotine spéciale Portugal pour évoquer l'actualité scientifique et la recherche scientifique et technologique et médicale au Portugal. Ça sera donc à l'occasion de cette 100e avec Enrique. La semaine prochaine, je compte sur vous. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. On se retrouve donc samedi prochain à partir de 10h pour le direct d'Enrique. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.